le magazine des Nations Unies.
La déclaration de Nairobi reste le seul cadre de la résolution de la crise entre le gouvernement et le M23. La MONUSCO l'a rappelé haut et fort par les truchements de son porte-parole suite à la menace de l'ex-mouvement rebelle de se désengager de cet accord sous prétexte que la partie gouvernementale n'a pas respecté sa parole. La ville de Kinshasa comptera plus de 14 millions d'habitants en 2025, tandis que 5 milliards d'âmes résideront dans des villes. C'est ce qui révèle une récente étude de l'ONU Habitat consacrée à l'état des villes africaines, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des villes. Un projet pilote d'assainissement initié à Kinshasa pour illustrer les défis et la problématique de développement des villes, c'est dans cette édition, dans quelques instants. Féminisation de la magistrature dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Un atelier tenu à Kinshasa du 23 au 24 octobre a réfléchi sur cette question. Une spécialiste du bureau conjoint décrypte ce concept tout en jetant un regard sur la situation des femmes magistrats en RDC. 10e conférence économique africaine, le rendez-vous s'ouvre à partir de ce lundi 2 novembre à Kinshasa. Les participants vont réfléchir autour du PNUD, de la BAT et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et contribuer à la mise en œuvre des stratégies africaines de lutte contre la pauvreté dans le cadre des objectifs du développement durable.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. La semaine dernière, le M23 a accusé le gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements dans le cadre de l'accord de Nairobi qui lie les deux parties. Raison avancée par l'ex-mouvement rebelle pour se désengager de ces processus. En réaction, la MONUSCO se dit indignée par cette menace et estime que des efforts ont été et continuent d'être menés pour aller jusqu'au bout du processus que tout le monde doit respecter. Le porte-parole de la MONUSCO l'a déclaré mercredi dernier au cours de la conférence des principes hebdomadaires des Nations Unies à partir de Kinshasa. Le propos de Félix Bass, recueilli par Honoré Missenga Kalala.
Je voudrais d'abord juste exprimer premièrement notre surprise, je dirais même à la limite notre indignation face à la sortie de ce communiqué du M23 qui exprime d'une manière ou d'une autre son refus de poursuivre le processus. Mais il faudra tout simplement rappeler que pour les uns et pour les autres, il n'y a qu'un seul cadre qui existe, c'est l'accord cadre qui a été signé à Nairobi. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger tous les efforts qui ont été entrepris jusqu'ici et qui continuent d'ailleurs d'être menés par tous les acteurs. Récemment, il y a eu la réunion à Luanda, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui a rappelé encore une fois avec force que tout le monde devrait rester dans le cadre et respecter les engagements.
Confortant la déclaration du porte-parole de la MONUSCO, Madame Taz Grelin, chargée de programme des DDRRR au sein de la mission onusienne, a annoncé quelques actions concrètes programmées par le gouvernement dans le cadre de ces processus. On écoute.
La collaboration entre l'Ouganda, le RDC et le Rwanda sur la question du M23 dans le programme national du DDR congolais. C'est vers le 8 novembre, la phase de formation professionnelle va débuter et ça inclut les ex-M23 qui sont déjà reportés sur place. On fait appel à tous les ex-M23 au Rwanda et au Ouganda de bien regarder ces programmes. C'est réel, c'est concret et d'ici 4 mois, il y aura les retournées dans l'Est, dans le lieu de leur choix, y compris les ex-M23.
Kinshasa abrite du 2 au 4 novembre la 10e édition de la Conférence économique africaine. Ce forum va réunir décideurs, chercheurs, praticiens du développement venant du continent et d'ailleurs. Les thèmes à l'ordre du jour, lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement de l'après 2015. Honoré Missenga Kalala, c'est quoi la Conférence économique africaine et quel est son enjeu?
La Conférence économique africaine a été instaurée en 2006. Un forum annuel dont l'objectif principal est de favoriser le dialogue et l'échange des connaissances sur les défis auquel est confrontée l'Afrique. Le forum de Kinshasa est le 10e. Il devra déboucher sur des stratégies de la mise en œuvre de la vision africaine et de l'identification d'actions concrètes pour la réduction de la pauvreté et des inégalités dans le contexte des objectifs du développement durable, ODD en sigle. C'est là justement l'enjeu de cette rencontre. Après le cycle des objectifs du millénaire pour le développement, OMD 2000-2015, le monde passe à celui des objectifs du développement durable à partir de janvier 2016. Or, l'objectif principal des ODD est l'élimination de la pauvreté d'ici 2030. C'est donc une rencontre de haute portée pour l'Afrique. Parmi les personnalités attendues, Abdoulaye Mar Dieye, administrateur, assistant et directeur du bureau régional pour l'Afrique au PNUD. Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et Akinyumi Ayodeji Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, BAD.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Déploiement de magistrats dans l'est de la RDC, féminisation de la magistrature pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles, deux concepts centraux développés lors de l'atelier organisé à Kinshasa du 23 au 24 octobre par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Un projet à hauteur d'environ 400 000 dollars américains est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail des magistrats. Madame Charlotte Songwe, coordonnatrice nationale du programme violences sexuelles au BCNUDH, décrypte pour vous ce concept. Elle est interrogée de Goma par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Madame Charlotte Songwe, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre.
Vous êtes coordonnatrice nationale du programme violences sexuelles au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. En appui au gouvernement, votre bureau a organisé du 23 au 24 octobre à Kinshasa un atelier sur le déploiement des femmes magistrats à l'Est. Pourquoi tout un atelier pour le déploiement des magistrats, madame?
En fait, cet atelier s'inscrit dans un projet. Nous avons jugé bon de discuter du déploiement des femmes magistrats dans un atelier de deux jours parce que la problématique de la magistrature n'est pas une petite histoire. C'est une problématique qui renferme plusieurs paramètres, plusieurs défis et qui nécessite des solutions, des résolutions, des recommandations, des actions bien précises. Donc l'activité de cet atelier consistait à mettre ensemble les magistrats de tous bords de la RDC et de discuter sur ce problème du déploiement des magistrats à l'intérieur de la République.
Ah, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur ces défis?
Oui, le déploiement des magistrats pose le problème même des conditions de vie des magistrats. Les affectations nécessitent l'implication pour le logement, par exemple, des nouvelles personnes affectées, les bureaux, les moyens de transport, en fait, les conditions de travail, la promotion, le traitement des magistrats, l'accompagnement de leurs familles. Il y a tellement de choses à prendre en compte pour un déploiement.
Pourquoi seulement dans l'est du pays, pas dans tous les pays? Les problèmes sont les mêmes, non?
Les problèmes sont les mêmes. Mais il y a toujours des spécificités. Cet atelier s'inscrit dans le projet d'appui de l'équipe d'experts des Nations Unies sur les violences sexuelles en conflit du bureau de la FRAG, Madame Bangoura, en charge des violences sexuelles en conflit. Donc vous comprenez déjà que le projet-là nous donne déjà une zone cible au sein de la République. Et en plus, le procureur général de la République a créé en 2014 au sein de tous les parquets saisis de la RDC, des cellules spéciales de répression d'infractions de violences sexuelles basées sur le genre. Et quelques 7 cellules spéciales à l'Est, qui est une zone qui connaît encore des conflits armés, ont été ciblées dans le cadre de ce projet. Donc nous avons choisi l'Est parce que c'est une zone qui connaît encore beaucoup de turbulences. Et aussi à cause du projet même que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui est un projet qui concerne les violences sexuelles en zone de conflit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de femmes magistrates au Bas-Congo ou au Bandundu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences sexuelles basées sur le genre dans les Kassai ou bien dans l'Équateur. Non, mais c'est juste que nous sommes dans le cadre d'un projet spécifique.
Madame Charlotte, la loi sur les statuts de magistrats adoptée le 15 avril de cette année au Parlement a mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, ne serait-il pas intéressant pour le bureau conjoint d'appuyer tout simplement le gouvernement sur ce point avant de parler même du déploiement proprement dit?
Oui, bien sûr. Le projet a prévu ces appuis-là aux magistrats. Le projet facilitera le déplacement des magistrats vers les nouveaux lieux d'affectation. Le projet appuiera leur installation à leur nouveau lieu d'affectation et leurs activités sur le terrain, par exemple les auditions des parties concernées, les enquêtes judiciaires, les audiences foraines. Donc le projet fournira aussi des conteneurs pour augmenter les bureaux des magistrats, parce que ce projet va aussi équiper les bureaux des magistrats des cellules spéciales en fourniture de bureaux, ordinateurs, imprimantes, modem, internet, mobilier pour les magistrats et pour les victimes. Et ceci, c'est dans le but, bien entendu, d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Un seul projet ne peut pas tout faire, mais il faut bien commencer quelque part.
Beaucoup de projets, il y a un coût financier. Est-ce que on peut en avoir une évaluation pour l'instant?
Oui, en fait, comme je vous ai dit, c'est un projet de l'équipe d'experts avec un financement même de cette équipe d'experts des Nations Unies et un financement du gouvernement japonais. Nous avons presque 400 000 dollars qui sont mis à la disposition de cette activité de projet. Ces fonds-là ne sont pas suffisants parce que c'est juste un projet qui ne peut pas tout couvrir.
Revenons à l'atelier de Kinshasa. Pourquoi on a mis l'accent sur la féminisation de la magistrature au cours de cet atelier?
Oui, c'est justement, nous voulons faire les choses dans leur globalité parce que pour une meilleure appropriation, pour une meilleure résolution de problèmes à long terme, nous parlons du déploiement, mais le problème même, c'est la féminisation de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut recruter plus de femmes dans la magistrature. Il faut déployer les femmes dans les cours et tribunaux à l'intérieur du pays. Donc, il faut donner un visage féminin. Il faut faire la promotion en grade de ces femmes magistrates-là. Mais aussi, il faut respecter les spécificités féminine dans la gestion des magistrats. Il faut favoriser l'égalité des chances. C'est tout ça là que nous appelons féminiser la magistrature. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Une femme magistrate peut être enceinte, elle peut vouloir se marier, elle peut devoir allaiter son enfant. Vous savez, l'autre problème, c'est que les violences sexuelles et basées sur le genre font à 98% de victimes féminines. Les femmes magistrates, juste à cause de leur nature féminine, nous pensons donc elles peuvent comprendre ce que la victime vit, parce qu'elle peut avoir été dans les mêmes conditions. C'est peut-être que son entourage peut être dans les mêmes conditions. Donc, nous pensons qu'il faut féminiser la magistrature dans son ensemble, permettre ainsi aux femmes de contribuer à cette lutte contre l'impunité.
Madame, mais vous parlez des femmes magistrats. Vous êtes à Goma, il y en a combien au Nord Kivu?
Au Nord Kivu, il n'y a pas 10 femmes magistrats. Dans tout l'ensemble du territoire congolais, nous avons dans les environs de 600 magistrates femmes sur plus de 3000. Donc le nombre est très réduit.
Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 recommandations de cet atelier?
Plusieurs recommandations sont sorties de l'atelier, mais brièvement, il y a eu des recommandations adressées au gouvernement et particulièrement au ministère de la Justice et des Droits Humains sur leur implication quant aux structures d'accueil des nouvelles magistrates affectées, leur logement, leur transport et consorts, mais aussi sur les salaires des magistrats pour améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie pour un bon rendement.
En avril dernier, les états généraux de la magistrature ont fait pratiquement les mêmes recommandations et aujourd'hui, ces recommandations semblent rester lettre morte. Que faut-il attendre du concret dans l'application des résolutions de votre atelier, madame?
En fait, cet atelier est une activité d'un projet qui a prévu déjà des actions qui répondent à plusieurs des recommandations qui sont sorties de l'atelier. Nous avons impliqué le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice dans cet atelier. Et ceci, c'est pour canaliser en fait les besoins exprimés vers les institutions compétentes. Pour que nos recommandations ne restent pas lettre morte, le projet a prévu un comité de suivi de toutes les actions à mener au sein de ce projet.
Madame Charlotte Essongue, Radio Capi vous remercie et bonne journée à Goma.
Une foire alimentaire au profit des réfugiés burundais de Lusenda, en territoire des Fizi au sud Kivu. Un marché organisé du 22 au 26 octobre 2015 par le Programme alimentaire mondial PAM, en collaboration avec le ACR et l'ONG African Initiative for Relief and Development. 9500 réfugiés ont bénéficié de ce marché. Celui-ci a consisté en l'acquisition par ces réfugiés des vivres de leur choix contre de bons d'achat d'une valeur de $23 américains par personne. La ration alimentaire par bénéficiaire est de 45 jours. L'OMS et la lutte anti-tabac, revenant à Kinshasa, 23 pays de la région Afrique ont participé du 23 au 30 octobre 2015 à un atelier de haut niveau sous la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la lutte anti-tabac. La convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est le premier traité de santé publique négocié sous les auspices de l'OMS. C'est le principal instrument de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le tabac. Restons toujours dans ce volet sanitaire pour signaler la résurgence du choléra dans l'ex-province du Katanga. Selon OCHA, dans son dernier bulletin d'information, près de 3000 cas de choléra, dont 46 décès depuis janvier 2015. La source précise que la contrée la plus touchée est la zone de santé de Mufunga-Sampwe, en territoire de Mitwaba. Les difficultés d'accès à l'eau potable constituent la principale cause de la maladie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
En 2025, Kinshasa comptera plus de 14 millions d'habitants. La mégalopole congolaise enregistre chaque année 390 000 nouveaux habitants. C'est ce qu'indique une récente étude de l'ONU Habitat consacrée à l'état des villes africaines. La célébration ce samedi de la Journée mondiale des villes donne l'occasion à cette organisation onusienne de sensibiliser et de réfléchir sur les défis liés au développement des villes. À Kinshasa, un projet pilote est en pleine expérimentation à Massina, l'une des communes les plus populeuses de la capitale. Adam Kandin, expert en politique foncière et représentant de l'ONU Habitat à Kinshasa, est notre invité. Il évoque toutes ces questions dans une interview qu'il a accordée à Jean-Pierre Elali Koko. Suivez.
Monsieur Kandin Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en politique foncière et responsable de l'équipe UN Habitat ici à Kinshasa. Le 31 octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des villes. Alors, Monsieur Adam, pourquoi toute une journée mondiale consacrée aux villes?
Il faut dire que l'Assemblée générale des Nations Unies, en décidant à travers sa résolution 68-239 du 27 décembre 2013, qu'à compter de 2014, le 31 octobre, Journée mondiale des villes, a voulu encourager les gouvernements à appliquer des méthodes d'urbanisation planifiées à même d'assurer un développement durable pour les villes qui connaissent un essor rapide. Alors, l'Assemblée générale veut, n'est-ce pas, en célébrant cette journée, inviter les États, les organisations des Nations Unies, en particulier l'ONU Habitat, les organisations internationales concernées, la société civile et toutes les autres parties intéressées à observer la journée et à la faire connaître au public. Ceci afin d'aiguiser la conscience collective sur la nécessité, premièrement, d'empêcher la prolifération des bidonvilles, ensuite d'améliorer l'accès aux services urbains de base et rendre les logements accessibles à tous, et puis également d'accroître, n'est-ce pas, les perspectives d'emploi et de créer des conditions de vie sûres et saines dans les villes.
Voilà, on va parler bientôt des bidonvilles, mais le thème est retenu cette année et des villes conçues pour vivre ensemble. Que traduit ce thème dans le contexte congolais où les villes connaissent quand même de multiples problèmes que vous connaissez,
n'est-ce pas? Dans un contexte où depuis 2010, dans le monde, la population urbaine a surpassé le nombre de populations vivant en milieu rural, ce qui est important comme défi. Mais il faut aussi dire que selon les projections de l'ONU Habitat, en 2030, 5 milliards de personnes devraient vivre en ville. Alors, comme vous le voyez, il est urgent, n'est-ce pas, de bien planifier la transformation urbaine afin que les villes deviennent ou restent des lieux qui sont source d'opportunités économiques pour toutes les catégories sociales. Évidemment, le contexte congolais n'échappe pas aux tendances générales qui viennent d'être évoquées. En effet, les villes congolaises, comme toutes les villes africaines et beaucoup de par le monde, se caractérisent d'une part par la pauvreté généralisée et la prolifération des taudis et bidonvilles, et d'autre part, par des trajectoires de développement et d'aménagement urbain laissées à elles-mêmes avec une carence notoire et persistante des capacités institutionnelles de ces villes. Alors, s'agissant de Kinshasa en particulier, il faut relever que c'est le système urbain le plus important et le plus dynamique en termes de croissance en chiffres, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. En effet, selon les résultats d'une étude menée par ONU Habitat, publiée en 2014, chaque année, la ville de Kinshasa devrait pourvoir aux besoins de 390 000 nouveaux habitants. Et la même étude estime sa population à environ 14,5 millions d'habitants en 2025. On avoisinera les 15 millions d'habitants, ce qui est important comme défi, effectivement.
Donc l'effort démographique, c'est un défi à relever certainement ici à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Mais ONU Habitat a conçu un projet, dit programme participatif d'amélioration de taudis ou bidonville. Alors la première question que je vais vous poser, c'est de savoir l'objectif de ce projet, donc sa durée.
Oui, le concept PPAB, donc programme participatif d'amélioration de bidonville, voudrait adresser un des défis majeurs auxquels sont confrontées les villes africaines, à savoir la prolifération des bidonvilles dont on a parlé tout à l'heure. Alors ainsi, le PPAV vise à renforcer la capacité de tous les acteurs urbains pertinents, y compris les agences gouvernementales nationales et locales, la société civile et les habitants des bidonvilles eux-mêmes, à travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles et la durabilité des villes concernées. Alors, il faut dire que dans le cadre du PPAB, nous sommes arrivés actuellement à une phase où on s'attaque à cinq privations essentielles, à savoir la question de l'accès à l'eau potable, la question de l'accès à un assainissement amélioré, un logement durable et adéquat, l'accès à un espace de vie suffisant, et enfin l'accès à une sécurité foncière et d'occupation résidentielle.
Vous avez parlé de ce projet. Quel est le niveau de réalisation depuis son lancement en mars 2014?
Actuellement, la phase concerne cette étape de PAB. C'est une phase où on a d'abord, dans un premier temps, procédé à une sorte de profilage urbain participatif. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les populations elles-mêmes pour bien comprendre le quartier d'intervention, qui n'est autre que le quartier Matadi, dans la commune de Massina, ici à Kinshasa. Alors ici, on a travaillé avec les populations pour mieux comprendre les réalités dans le cadre de ce quartier. Ensuite, on a dessiné avec eux un programme participatif qui va déboucher sur le résultat dont je vais vous parler. Donc les résultats de ce programme-là sera que d'ici au plus tard, à mars 2016, on aura aménagé des sanitaires et des bornes fontaines dans les places et espaces publics sous gestion participative dans les localités Avion, Indou, Chifélé, Nzama 1. Ensuite,
on aura toujours dans le grand quartier de Matadi.
Dans le quartier de Matadi à Massina. Et après, on aura aménagé et équipé des dépotoirs de transit.
Vous parlez du futur, on aura, qu'est-ce qui est fait concrètement
pour l'instant? Voilà. Actuellement, le programme est dans la phase de passation de marché. Nous sommes en train de sélectionner les entreprises qui vont réaliser ces travaux. Donc c'est la dernière étape, parce que c'est un travail participatif, il a fallu, un, organiser ces communautés-là en comité, n'est-ce pas, des résidents qui ont procédé, n'est-ce pas, à la sélection des entreprises. C'est pas avec eux que tout s'est passé, et donc c'est la raison pour laquelle ça a pris du temps, et c'est parce que c'est un processus participatif et la gestion de ces réalisations va se faire avec eux. C'est un projet pilote pour montrer que c'est possible d'améliorer les conditions des populations des bidonvilles en les impliquant eux-mêmes dans le cadre, n'est-ce pas, de l'identification de ce qui est prioritaire et ensuite de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des dispositifs qui va permettre de résoudre ce problème. Je voudrais rappeler que le bureau régional Afrique de ONU Habitat a soutenu le gouvernement de la RDC dans l'élaboration d'un plan national d'action pour le développement du logement et un plan de lutte anti-érosion pour la ville de Kinshasa.
Monsieur Adam Kandine, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Thank you.
professionnels des médias et acteurs sociopolitiques des Matadi ont participé du 26 au 27 octobre 2015 à un atelier sur les infractions des presses et les fautes à éviter pendant la période électorale, une initiative de l'UNESCO en collaboration avec la section locale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Pour le représentant de l'UNESCO, M. Abdourahman Diallo, son institution entend accorder une importance prépondérante à la question de la prestation des professionnels des médias et des acteurs politiques en période électorale. Dani Kindandita.
L'objectif de cette formation, a dit le représentant de l'UNESCO en RDC, c'est de responsabiliser les professionnels des médias, les opérateurs politiques et ceux de la société civile du Congo central du rôle qu'ils sont appelés à jouer pour la réussite des élections libres, démocratiques et apaisées. Abdourahman Diallo.
4 ans après, nous nous retrouvons encore une fois de plus ici, au Congo central, à Matadi et dans cette même salle avec les mêmes acteurs pour une autre thématique, cette fois-ci, les infractions de presse et les fautes à éviter dans les médias pendant la période des élections. Le diagnostic formulé en 2012 sur la base des rapports d'évaluation de la régulation des médias par la Haute Autorité des médias et l'UNPC avait démontré la nécessité aussi bien pour les professionnels des médias que pour les acteurs sociopolitiques qui s'expriment dans les médias de porter une attention soutenue sur les prescrits de la loi applicable à l'exercice de la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à l'éthique journalistique.
Le représentant du gouverneur de province, le ministre provincial de la Santé, a, dans son mot, remercié l'UNESCO pour avoir financé cette formation. Pour Thérèse Louise Mambounyangi, la tenue de ces assises dans le Congo central répond à une préoccupation, celle de voir les professionnels des médias s'émunir davantage de techniques professionnelles pour une meilleure couverture des élections. Matadi, Dani Kindanzita, magazine des Nations Unies, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Lutte contre le VIH-Sida, où en sommes-nous en RDC? Suivez plutôt cette question d'une consoeur de la RTNC suivie de la réponse de Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC.
Laetitia Massela pour le compte de la RTNC 2. Nous tendons notamment vers la journée internationale de lutte contre le sida le 1er décembre. À ces jours, comment se présente le tableau de bord de la lutte en RDC? Merci.
En effet, le 1er décembre, le monde entier célébra la lutte contre le sida. Comme vous le savez, la lutte contre le VIH-Sida est l'un des axes d'intervention du plan stratégique de développement entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Le taux de prévalence du sida a diminué ces dernières années grâce aux interventions à la fois des Nations Unies et de leurs partenaires, distribution de préservatifs, campagne de sensibilisation, mais aussi mise sous traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH. Donc les résultats sont encourageants. Il y a encore des progrès à faire, mais les résultats sont encourageants. Évidemment, autour du 1er décembre, dans ce forum, ne manqueront pas de revenir avec des informations plus détaillées et avec le représentant d'ONU SIDA qui pourra vous dresser un tableau plus complet.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Léonard Moulamba Kalala. Je suis marié à Mélanie Mujinga. Quant à ma formation, je suis licencié en journalisme à l'ISTI, l'Institut des sciences techniques de l'information, actuellement IFASIC, après bien sûr avoir fait mes humanités littéraires. Alors, quant à mes fonctions actuelles, je suis rédacteur en chef de Radio Okapi à la MONUSCO depuis 2008. Et avant cela, j'étais rédacteur en chef adjoint depuis 2004. Et j'ai commencé à Radio Okapi le 25 février 2002 comme secrétaire de rédaction. Je suis devenu, je l'ai dit, rédacteur en chef adjoint en 2004 et enfin rédacteur en chef depuis le 1er janvier 2008. Alors, mes tâches quotidiennes consistent à suivre la production des informations au niveau de la radio, en présidant des conférences de rédaction avec mes collègues rédacteurs en chef adjoints, en suivant également la préparation et la présentation des magazines d'information et tout ce qui entre dans le secteur de l'information. Avant d'arriver à la MONUSCO, j'ai commencé par la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, en 1988 comme journaliste, après bien sûr ma licence en journalisme à l'ISTI. Je présentais le journal Parlé, je l'ai fait pendant à peu près 5 ans. J'ai été aussi chroniqueur de politique internationale à la télévision nationale. Alors depuis 1993, je suis arrivé au Potentiel comme reporter, d'abord à la rubrique économique, et puis je suis monté jusqu'à devenir rédacteur en chef. Je suis parti du Potentiel en 2000. Et pour arriver ici à Radio Capi 2 ans plus tard. Alors quant à mon temps libre, j'en ai très peu actuellement. Le temps libre, peut-être le week-end. Bon, je fais la marche pour entretenir un peu mon physique. Je fais la marche à pied et puis je regarde la télé quand j'en ai l'occasion. Je lis les bouquins, je lis les journaux locaux et étrangers. Et concernant mes préférences, bon, j'aime la musique congolaise d'abord, ensuite la musique française, ça j'aime. Pas tellement la musique anglo-saxonne, je ne suis pas vraiment un féru. Quant au sport, c'est le football. J'allais au stade il y a quelques années, maintenant je préfère suivre les matchs locaux à la télévision. Côté assiette, j'adore mon foufou avec du fondu, avec du poisson, mais je m'adapte à toutes les recettes parce que en tant que journaliste, je voyage, normalement j'ai eu à voyager, donc je m'adapte à toutes les cuisines que je trouve. Enfin, projet d'avenir, bon, l'avenir appartient à Dieu, parce que je suis croyant, je ne sais pas dessiner l'avenir pour le moment. Voilà, je termine par là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux journées dans le calendrier des Nations Unies pour la semaine qui commence. D'abord, ce lundi 2 novembre, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Et le 6 novembre, ce sera la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps des guerres et des conflits armés. Voilà, c'est la fin de ce magazine, coordonné par Jean-Pierre Elali Koko. Honoré Missenga était au reportage, une mise en onde signée Patrick Kiasongwa. Et Nadine Soulantimba vous l'a présenté. Bon week-end à tous.